RTL Midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Robière,
Stéphane Carpentier.
13h06 en ce mardi, on vous souhaite évidemment le meilleur. Merci de nous rejoindre tout en direct. Vos appels au 3210 pour commenter toute l'actualité, les sujets qui vous interpellent, qui vous passionnent, qui vous font réagir. 3210 et puis vos messages aussi sur les réseaux sociaux et notamment la fameuse page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole. On va s'arrêter sur cette vidéo qu'on a mis en avant sur RTL. D'abord Cyprien Sini ce matin à 7h58 avec Yves Calvi, vidéo d'une maman donc qui se prénomme Carole, qui est bretonne et qui a monté une école qui accueille pour l'instant 5 enfants qui sont en situation de handicap, qui a une méthode particulière qui n'est pas reconnue dans notre pays et qui interpelle en fait à sa façon Emmanuel Macron pour avoir des moyens et plus de considération, comme elle nous disait, elle était notre invitée tout à l'heure. On va recueillir et accueillir à nouveau Valérie qui est en ligne, hein, Christelle.
On est ravis de vous retrouver Valérie.
Merci à vous.
Voilà, pour vous laisser le temps de nous raconter vraiment ce qui vous arrive avec votre fils et à quel point finalement vous êtes retrouvée dans un parcours du combattant que vous n'aviez pas imaginé, où vous avez même perdu votre travail.
Oui, c'est ça, c'est vraiment ça, un parcours du combattant. Sauf que moi, je n'ai pas fait comme école l'armée, si vous voulez. Donc moi, je suis maman. Quand on a un enfant différent, un enfant... quand on appelle un enfant handicapé, on se bat avec nos moyens et les moyens que l'État ne nous donne pas, malheureusement. Moi, j'ai eu le sentiment, donc Clément a été rapidement pris en charge au CAMS. Ça a été une chance, mais le CAMS s'arrête l'année des 6 ans. Après, il a fallu faire une demande de CMPP. Le CMPP a refusé Clément puisqu'il ne prend en charge que les enfants qui ont des troubles d'ordre psychologique. Clément, c'est une pathologie. On m'a dit, Madame Marie, c'est bien gentil, mais du coup, c'est en libéral. Ok, l'orthophoniste, c'est remboursé en libéral. La psychologue, 53 euros la séance, c'est pas remboursé, il lui en faut une tous les 15 jours.
Il est scolarisé, votre enfant, Valérie ?
Oui, il est scolarisé.
Il a une AVS ou pas ?
Il a une AVS.
Une auxiliaire de vie scolaire.
C'est-à-dire qu'il ne l'a pas à plein temps, en fait.
D'accord.
Alors déjà, rien que pour avoir l'AVS, il faut faire un dossier MDPH. Je suis désolée de dire ça à la radio, mais si vous n'avez pas un certain niveau d'instruction, c'est un dossier qui
est très compliqué.
On vous demande de remplir ce qu'on appelle un projet de vie. Il faut que vous disiez ce que vous voulez pour votre enfant. Et comme tous les parents, on a envie de leur hurler, mais on veut ce qu'il y a de mieux pour notre enfant.
Oui.
Une scolarité adaptée, avec des moyens adaptés. On veut des aides. Là, Clément, il a fallu qu'on renonce à une prise en charge chez une psychomotricienne une fois que le CAMS s'est arrêté, parce qu'on ne pouvait pas débourser 206 euros par mois de notre poche. La psychologue et la psychomotricienne ne sont pas pris en charge. On travaille tous les deux. Vous vous rendez compte de ce qu'on va dire dans 10 ans à notre fils? On est désolé, on n'a pas pu te faire soigner Clément. Parce que malgré le fait qu'on travaillait tous les deux, on n'avait pas les moyens. On n'a aucune aide. Si j'ai besoin de temps à me libérer pour l'emmener à ses rendez-vous, il n'y a aucun employeur qui doit vous libérer légalement du temps. C'est au bon vouloir de l'employeur. À chaque fois, ça me coûte mon poste. J'enchaîne les CDD parce que à chaque fois que je trouve un poste, on me dit oui, ça pose pas de problème. Et puis au fur et à mesure des mois, tout compte fait, ça pose problème. Je suis enceinte, j'ai le droit de prendre mes rendez-vous sur mes heures de travail. Là, parce que j'ai un enfant qui est différent, on a le droit.
Oui, là, vous n'avez même pas le droit de le faire. Oui, absolument. C'est
non.
Vrai que ça
et
paraît
puis, financièrement,
assez absurde.
C'est... Financièrement, vous vous rendez compte de se dire non, mon chéri, on peut pas te faire soigner parce qu'on n'a pas les moyens financiers. Enfin, c'est un cri du cœur. Il faut vraiment que le gouvernement bouge les fesses. Je ne le souhaite à personne, mais si seulement quelqu'un pouvait venir voir notre quotidien, ces rendez-vous, ces heures d'attente, on connaît toutes les salles d'attente, on est des mamans qui avons dans notre sac un carnet et un crayon, 4 couleurs pour occuper nos enfants dans des salles d'attente. On connaît ce que c'est la MDPH, les projets de vie, les équipes pédagogiques. Vous vous rendez compte, demain seulement, je vais avoir la première équipe pédagogique qui réunit la psychologue scolaire, la directrice de l'école, l'AVS et l'enseignante. Seulement demain, ça fait 19 mois que mon fils n'a pas eu d'équipe éducative, alors que ça permet de faire le point entre les différents professionnels. Tout ça parce qu'il n'y a pas assez de monde à l'éducation nationale.
Ça fait 4 ans,
j'ai changé 3 fois d'enseignant référent. Il n'y a aucun suivi, il n'y a pas de moyens à l'éducation nationale. Je suis désolée, c'est un cri du cœur que je passe.
Mais on l'entend, Valérie.
Donnez-nous les moyens d'élever nos enfants correctement. Ces enfants-là seront les personnes qui travailleront et qui permettront de payer des retraites demain, qui permettront de payer leurs impôts, leurs taxes, de faire vivre un pays. Ne les sous-estimons pas.
Valérie, merci d'avoir pris du temps pour nous, d'avoir eu le courage de parler de tout ça, et vous l'avez fait parfaitement, évidemment, même si tout cela est très malheureux et très triste à écouter. C'est un témoignage poignant. On sait même pas quoi vous dire, si ce n'est courage à vous.
Ne lâchez rien.
Ne lâchez rien, évidemment.
Ne perdez pas courage, Valérie.
Et je suis certain que les auditeurs et les auditrices seront pas insensibles à votre témoignage. Merci à vous. On va écouter d'autres auditeurs qui veulent prendre la parole dans un instant. C'est votre émission, votre radio. Vous en prenez les commandes. C'est au 3210. À tout de suite.
Stéphane Carpentier.
Christelle Rebière.
Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi.
Et vos témoignages nous bouleversent, sachez-le, aujourd'hui, concernant le handicap. On est ravis de retrouver Joël. Bonjour Joël.
Bonjour.
Bonjour. Alors vous représentez l'Association des paralysés de France. Vous êtes à Paris, hein, Joël, et vous avez été ému tout à l'heure par le témoignage de Carole qu'on avait en ligne dans le journal, qui donc a monté un centre d'éducation conductive appelé Deliac en Bretagne et qui a interpellé Emmanuel Macron, qu'elle espère bien pouvoir rencontrer puisqu'il est en visite en Bretagne demain et jeudi.
Alors je représente l'APF, c'est plus l'APF, ça s'appelle maintenant, ça a été... L'APF, ça s'appelle APF France Handicap, oui. Qui a été un nouveau logo depuis le 18 avril. Mm-hmm. Alors je représente le comité APF France Handicap de Paris, celui Grand Paris, parce que ça a été regroupé en 4 délégations. Oui. Vous savez, donc moi je m'occupe de l'accessibilité, de la mobilité, et je m'occupe de plein de choses, et notamment la personne auditrice que ça m'a ému parce que je suis en situation de handicap et je connais très bien les sujets. Et le sujet, c'est sur la compensation et tout ça. Il n'est pas normal que cette personne n'ait pas d'aide pour cet enfant. On va combattre, on va essayer de l'aider. Donc, vous savez qu'il y a le congrès APF France Handicap à Montpellier, le 21-22, elle peut nous contacter. Mm-hmm. Donc, il y aura
on va lui donner votre numéro. Ça, c'est pour Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour Carole qui est en Bretagne, alors ?
Eh bien, on va essayer avec... Parce que vous savez que Congrès, c'est 1300 adhérents. C'est beaucoup de délégations de toute la France. Donc,
vous pose, Joël, très franchement, le problème de Carole qu'on a entendu tout à l'heure, c'est qu'elle a monté cette école en sachant que cette méthode n'était pas reconnue par l'État. Donc elle savait, elle l'a fait parce qu'elle pense que c'est une méthode extrêmement efficace, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'aide. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire de plus pour elle ?
Eh bien, on va essayer de se battre auprès du gouvernement, pour qu'on fasse une action, parce qu'il n'est pas normal. Vous savez qu'il existe la loi du 11 février 2005, et le but, c'est que l'accessibilité pour tous, c'est le confort et l'aide humaine pour tout le monde. Mm-hmm. Donc on va faire le nécessaire pour pouvoir mener bataille, parce qu'il n'est pas question que cette personne soit restée comme ça. En plus, elle n'a plus de salaire. Ouais, donc elle se retrouve dans le... Comprenez ?
Oui, absolument. On va écouter... Joël, restez avec nous, s'il vous plaît, depuis Paris. On va écouter Julie, c'est un témoignage qui nous arrive des Hautes-Alpes. Julie, bonjour à vous.
Oui, bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Merci de prendre la parole. C'est votre fils dont vous voulez nous parler, qui a 29 ans et qui est en situation de handicap, c'est ça ?
Tout à fait, voilà. Je veux en parler parce que, si vous voulez, je ferme une porte pour en ouvrir une autre. Et je voulais dire à l'auditrice précédemment qu'elle n'était pas au bout de ses peines, parce que j'ai vécu tout ce qu'elle a vécu auparavant, entre les CAM, les IME et tous ces organismes. Bon, maintenant, c'est une autre porte que j'essaye d'ouvrir, mais qui est difficile à ouvrir. Un ESAT, je ne sais pas si ça vous parle, un ESAT.
Non,
mais
faut
c'est
nous expliquer.
Un établissement, bon, quand on est passé par toutes les petites structures dans lesquelles vos enfants vont, parce que l'éducation nationale un beau jour décrète en moyenne section, lui on le veut plus parce qu'il faut lui donner la main. Voilà, et, votre fils ne repère pas dans l'espace, donc il ne peut pas rester avec nous. Donc je vous parle de ça il y a 25 ans en arrière. Oui. Donc hop, on vous a demandé de partir, de vendre deux commerces que j'avais dans les gorges du Verdon, de placer mon fils, et ben voilà, dans un établissement où on pourra lui donner la main. Enfin voilà, bon, donc nous sommes partis, nous avons tout vendu, et maintenant, ben voilà, il s'est passé que mon fils a été dans un IME, ensuite dans un foyer occupationnel, Et ce foyer occupationnel, c'est bon pour moi une grosse garderie parce que il n'y a pas grand chose pour l'handicap de mon fils qui l'intéresse.
C'est quoi un foyer occupationnel, pardonnez-moi.
Eh bien, un foyer occupationnel, c'est un endroit où s'il n'y a pas d'autres structures. Ben, quand je parle des AT, c'est donc le travail. Hein. C'est pour rentrer dans le monde du travail. Le foyer occupationnel, c'est peut-être une attente d'entrer dans le monde du travail. Mm-hmm. Là, on les occupe.
Mm. Voyez, mais il a fait une formation, votre fils, en quoi ?
Ah non, rien du tout. Quand ils ont ouvert cet établissement qui était magnifique en 2007, il y avait plein de choses. Justement, pour pouvoir se dire comment on peut les orienter. Est-ce qu'ils peuvent être manuels? Est-ce qu'ils ne peuvent pas être manuels, etc., etc. Et ces plein de choses se sont transformées en plus rien. C'est-à-dire, atelier cuisine, c'est fini. Atelier poterie, c'est fini. Atelier bois, c'est une fois tous les... Oh, je ne sais pas combien. Enfin, voilà. Tout ce qui avait un côté intéressant par lequel... mon fils est rentré dans cet établissement parce qu'il y avait atelier cuisine. Mmh. Parce que c'était son but, parce que c'est ce qu'il avait envie de faire. Et nous, parents, eh bien, comme disait la dame précédemment, on a envie de quand même être derrière en disant, bon, tu veux essayer de faire ça? Eh bien, on va te donner la chance d'essayer de le faire. Mais laissons-lui la chance d'essayer de le faire. Donc c'était fantastique. Et puis ça s'est cassé la figure. Il est passé beaucoup de directions à l'intérieur de cet établissement. Un directeur, une directrice, un directeur. Enfin bon, bref, en si peu de temps, il a dû en avoir 4 ou 5. Et je pense que c'est une question de moyens, voyez-vous. Et ça, c'est pas normal parce qu'il est flambant neuf, le truc, là. Mmh. Il est vraiment très beau. Serge Chevalier, magnifique. Mais bon, ça suffit pas, quoi. Il faut du personnel qui va avec le magnifique.
Qu'est-ce qu'il fait votre fils aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites avec lui?
Rien, il s'emmerde, excusez-moi l'expression. Nous habitons certes un joli coin, la montagne, le ski, etc. Mais autour de nous, on n'a pas suffisamment de structure pour se dire... Et puis c'est plein, jusqu'à la gueule, excusez-moi encore l'expression, mais toutes ces structures, il y a des listes d'attente d'un an, deux ans, etc. Enfin, bon, bref.
Donc comment vous faites pour l'occuper, votre fils?
Disons qu'il va, ce foyer occupationnel, mais c'est pas une solution, voyez-vous. Moi, j'ai arrêté de travailler à 60 ans en disant, bon, il faut que je fasse quelque chose pour mon fils. C'est pas quand je vais avoir une canne et puis ne plus avoir de vue, ne plus pouvoir conduire qu'il faudra faire quelque chose. Alors, c'est ce que je fais. Eh bien, depuis un certain temps, je vais sur les routes, j'ai aménagé mon petit camion en camping-car et je vais visiter les ESAT. Donc, où il est possible que mon fils entre dans une cuisine, fasse un essai. Parce que dans le privé, il n'y a personne qui embauche une personne avec handicap. Bon, Robin est né avec une maladie génétique. C'est un petit garçon, enfin un jeune homme qui s'exprime bien, qui sait compter, lire, écrire.
Mais vous êtes quand même obligé de faire du porte-à-porte, hein, si j'ose dire, pour essayer de trouver une solution, quoi, pour qu'il puisse un jour travailler en cuisine. C'est fou.
Encore un incroyable témoignage. Merci Julie depuis Briançon. Merci de nous avoir raconté tout cela. On prolonge ce débat et ce constat, surtout avec vos témoignages. Témoignages et vos appels au 3210, à tout de suite.
RTL Midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Rebière.
Stéphane Carpentier.
Et on continue à évoquer avec vous ces situations extrêmement douloureuses de handicap avec, on l'entend, des parents qui ne savent plus quoi faire pour aider leurs enfants et leur trouver des structures adaptées.
Et un coup de fil de Karine qui nous rejoint du Nord. Bonjour Karine, soyez la bienvenue.
Oui, bonjour Christelle et Stéphane.
Ça nous intéresse de vous écouter particulièrement, Karine, parce que vous aviez passé un coup de fil à RTL il y a 10 ans.
Il y a 10 ans. Ouais, quand j'ai entendu Valérie tout à l'heure, je pense que vous pourriez reprendre l'enregistrement, je pense que j'avais exactement les mêmes mots. Donc ça veut dire que depuis 10 ans, donc déjà beaucoup de courage pour Valérie, parce qu'effectivement, elle n'a pas fini de galérer, pour être honnête. Donc, il ne faut pas lui raconter des carabistouilles. En fait, il n'y a rien qui a évolué. Donc moi c'est aussi un coup de gueule que je veux poser parce que en fait dans votre émission, et heureusement que vous le faites parce que sinon il y a personne d'autre qui le fait, c'est que tous les 6 mois ce sont exactement les mêmes témoignages, les mêmes situations et les mêmes discours. Alors sûrement que demain matin vous aurez un invité politique qui va du coup aborder le sujet, mais ça va durer 48 heures. Donc à un moment, qu'est-ce qu'on fait dans ce pays pour aider nos enfants handicapés, alors les handicapés en règle générale, mais surtout les enfants? enfin, il faut que les parents comprennent les enfants. Alors moi, il se trouve que j'ai mon fils qui a 17 ans maintenant, Gaspard, ouais. Qui en M-Pro, c'est juste formidable, avec une équipe d'éducateurs extraordinaire, mais on a galéré. Et je peux vous dire que il a 17 ans, quand il aura 21 ans, je sais que je vais de nouveau galérer. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y a des tranches d'âge, en fait, oui. dans l'handicap.
Et à 21 ans, qu'est-ce qui se passe ?
Ah bah alors, c'est une très bonne question, Christelle.
C'est-à-dire que vous n'avez plus d'aide, il n'y a plus de prise en charge, c'est ça ?
Alors, il y a des prises en charge qui existent, mais ce que disait la dame auparavant, c'est qu'en fait, tout est pris. Il n'y a pas assez de structure. Ça. Donc, c'est des listes d'attente pas possibles. Donc, nous, on vit au jour le jour. On vit grosso modo tous les 3-4 ans. Voilà. Et tous les 3-4 ans, on se retrouve dans les mêmes galères. Alors, je vous raconte même pas, votre auditrice précédente le disait, la MDPH, c'est juste innommable, cette administration. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va faire bouger les lignes, mais pour vous donner un exemple, tous les 3 ans, je dois retourner à la MDPH pour préciser que mon enfant est toujours handicapé.
Oui, parce qu'il faut prouver. Ouais, ça, c'est quelque chose dont on parle souvent. Il faut continuer à prouver son handicap pour pouvoir continuer à bénéficier de certaines aides.
Mais c'est complètement absurde. Donc, si la MDPH a une petite pilule magique pour que mon enfant n'ait plus d'handicap mental, je suis preneuse. Je leur en achète une caisse. Moi, je suis tombée déjà à la MDPH avec des adultes, un monsieur qui était en fauteuil roulant. Il lui manquait une jambe, il devait y retourner tous les 3 ans pour montrer que sa jambe n'avait pas repoussé. Donc, on tombe dans des trucs, mais ridicules, vous n'avez même pas idée. Même pas idée. Alors, on en rigole, hein, quand on est dans la salle d'attente de la MDPH. De toute façon, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Parce qu'on essaye de voir la bouteille à moitié pleine malgré tout. Mais c'est sincèrement hallucinant, hallucinant. Donc voilà. Donc demain, il y aura sûrement votre invité politique, quel qu'il soit, qui va en parler. Mais moi, je voudrais bien qu'on passe le cap des 48 heures, quoi. Qu'on s'inscrive dans la durée. Voilà. Donc c'était mon coup de gueule.
Eh bien, vous avez bien fait de passer votre coup de gueule. Et n'hésitez pas à nous donner encore des nouvelles de votre fils régulièrement, Karine. Et à pousser d'autres coups de gueule.
Il est très heureux. Et merci au personnel de l'IMPRO et aux éducateurs qui font un travail formidable.
Le message est passé. C'est bien de le dire. Merci à vous, Karine. Merci de tous vos témoignages, évidemment, sur cette séquence qui fait aussi réagir, hein, Christelle, évidemment, sur les réseaux sociaux.
Et oui, sur notre page Facebook, RTL Midi, les auditeurs ont la parole. Bonjour, Laurent Tessier.
Bonjour, Christelle. Oui, dans ces situations, les parents sont démunis, déplore-t-a. Les structures trop peu nombreuses, peu d'accompagnement. Nos enfants n'existent pas beaucoup, soupire Stéphanie. Il n'y a aucune égalité de chance. C'est à nous, parents, de mener un combat de tous les jours. Quand je paye mes impôts, je m'interroge et je me dis qu'il ne sert pas à grand chose pour ma fille en situation de handicap. Emmanuel est maman d'un Thibaut, 19 ans, il est sourd, déficient visuel. Nous sommes obligés de le déscolariser car les professeurs ne veulent pas prendre en compte ces différences. J'ai honte de mon pays.
Voilà, les réseaux sociaux à disposition pour commenter toute l'actualité. Vous êtes les bienvenus. La page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. Dans un instant, on va écouter Mathieu. Mathieu, il a des choses à nous dire. C'est un auditeur parisien. Des choses à nous dire sur le petit accrochage hier entre un jeune, un ado.
Un ado de 3e.
Voilà, c'est ça. Qui a interpellé le président de la République en lui demandant si ça allait Manu. Ça va Manu. Il a été recadré et Mathieu voudrait commenter tout ça. À tout de suite.
RTL Midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Robière.
Stéphane Carpentier.
Ça va ?
C'est bien.
Mais ça va ?
Je la connais. Ça va, Manu ?
Non. Voilà. Tu es là, dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut. Donc tu peux faire l'imbécile, mais aujourd'hui c'est la Marseillaise et le chant des partisans. Tu m'appelles monsieur le président de la République ou monsieur ?
Oui, monsieur.
D'accord ? Voilà. C'est bien. Et tu fais les choses dans le bon ordre. Si le jour où tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même. D'accord ? Et à ce moment-là, tu iras donner le son.
Voilà, c'était hier au Mont-Valérien à l'occasion de l'anniversaire de l'appel du 18 juin. Vous l'avez entendu, Emmanuel Macron a recadré assez sévèrement un élève de 3e qui essayait de l'appeler Manu. Ça fait réagir Mathieu, qui nous appelle de Paris. Bonjour.
Bonjour Christelle, bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu.
Bienvenue.
Alors voilà, écoutez, je vous remercie. Je crois que il a eu tort. Je vais vous expliquer pourquoi. Pas sur le fond. Ce jeune, cet adolescent avait besoin d'être recadré, mais sur la forme. Le président Macron vante, depuis qu'il est élu et incarne plutôt pas mal, une certaine verticalité du pouvoir. Vous savez, la fameuse sacralisation de la fonction présidentielle, lui-même s'appelant un peu Jupiter. Donc, je trouve que ça ne se prête pas du tout à ce niveau de fonction qui n'est pas un job comme les autres, d'interpeller un jeune adolescent et de vouloir faire la leçon. La prochaine fois qu'il sera en convoi, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'il y aura des bouchons ? Il va descendre de la voiture, il va faire la circulation ? Non, excusez-moi. Il y a des officiers de sécurité, il y a des accompagnateurs, il y a des gens qui sont là pour recadrer ce genre de petits jeunes.
Et en même temps, c'était pour défendre, pardon de vous interrompre, mais c'est pour le débat, Mathieu, c'est pour défendre la fonction aussi. Il lui dit, attention, tu t'adresses au président de la République.
Oui, mais c'était pas à lui, M. Macron, le président, de se défendre lui-même. Il a des gens qui sont payés pour ça dans l'entourage présidentiel. Souvenons-nous de ce qui s'est passé avec Sarkozy et quand il s'était interpellé avec au sein de l'agriculture avec un monsieur. Mmh. Oui. Souvenons-nous de François Hollande qui interpelle Léonard en direct. Les présidents ont toujours tort de descendre dans l'arène. Ils doivent garder une certaine hauteur. Et puis le but du jeune, c'était de se faire remarquer et de faire le buzz. C'est gagné. Les réseaux sociaux ne glosent que là-dessus depuis 24 heures. Donc il a réussi son coup de la provocation. Si M. Macron n'avait pas réagi et qu'un officier de sécurité avait lui-même recadré cet adolescent, il n'y aurait pas eu les caméras qui se seraient braquées sur cet adolescent. Je souhaite bon courage au président, au prochain Main de Foule, de ne pas avoir des jeunes qui vont lui faire le manu-manu auquel il a eu droit hier.
Ouais, c'est pas impossible, évidemment. Il y a une consoeur qui nous raconte sur les réseaux sociaux qu'elle a vu tout à l'heure ce collégien. Figurez-vous, et qu'il vit des moments assez pénibles dans son collège. C'est-à-dire qu'il est la risée de tous ses petits camarades et que du coup, il veut voir plus personne, qu'il a dû rentrer chez lui à la maison et qu'il ne veut plus parler à personne. Ça peut avoir en plus des conséquences. Hein,
c'est possible aussi. Ouais, parce que ça prend une proportion un peu justement disproportionnée, je trouve. Bon, il n'a pas insulté, il n'a pas eu de gestes violents, il n'a pas eu de crachat.
Il a été familier avec le président de la République.
C'est une bêtise d'un adolescent idiot qui voulait se faire remarquer, qui a voulu jouer un peu au gros bras. Mais encore une fois, je vous dis, le président n'était pas là pour... moi, j'attends du président une certaine autorité vis-à-vis des 750 zones urbaines sensibles où la police, les pompiers, les médecins ne peuvent pas rentrer face à la montée du communautarisme, face à l'islamisme rampant. Là, j'attends sa fonction régalienne d'autorité. Mais pour recadrer un adolescent un peu stupide, il y a d'autres gens que le président pour le faire.
Voilà, ça n'était pas son rôle et on a bien compris votre message, Mathieu. Merci d'avoir réagi et commenté ce sujet de vous-même, en tous les cas, puisque vous nous avez rejoint au 3210 et vous le faites ainsi. Les sujets qui vous inspirent et vous avez des choses à nous dire, vous nous rappelez au 3210.
Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi.
On parle bio ?
Vous avez faim, ça tombe bien ?
Ouais, ça tombe bien. Ça gargouille. Bio ou pas, hein, je mange tout là.
J'ai bien compris. Bon, on va essayer le bio local quand même. Hein, puisque le Conseil économique, social et environnemental a rendu un avis où il souhaiterait mettre en place un label bio local pour bien distinguer le bio français des autres. On vous pose la question d'ailleurs, est-ce qu'un label c'est utile ? Vous dites oui à 80% sur notre site rtl.fr. Vous n'êtes que 13% à penser le contraire. Bonjour Arnaud.
Oui, bonjour Christelle.
Soyez le bienvenu. Alors, bio local, vous êtes pour vous aussi ?
Alors, moi, je suis un peu partagé. Forcément, j'ai un rôle qui n'est pas neutre. Je suis président d'une association qui s'appelle Trésor de Flandre, dans laquelle on a une quinzaine de producteurs. Il y a des bio, il y a des non-bio, il y a des conventionnels. Il y a même des gens qui font autre chose que des produits alimentaires. Mm-hmm. Donc, on a en quelque sorte un label qui est surtout connu localement.
Oui.
Moi, disons que ce que je mets en avant quand je suis consommateur et quand je suis président de cette association, c'est plutôt la proximité, le circuit court. Mm-hmm. Parce que quand on est en circuit court, Christelle, on va soi-même acheter ses produits chez le producteur et en général quand on est curieux on essaie de savoir un peu comment ça se pratique. On voit s'il y a du traitement, enfin bon, après on peut faire aussi de la cachotterie, on est d'accord, hein, mais on peut quand même juger par soi-même. Alors le petit inconvénient, c'est qu'il faut bouger un petit peu. C'est pas forcément au pied de son immeuble, mais dans la vie, si on veut avoir une petite vie sociale, c'est toujours intéressant d'aller voir ses producteurs. Et puis, on est sûr d'avoir les légumes de saison. Hein. Je vous entendais tout à l'heure parler des tomates espagnoles qui traversaient toute l'Europe. Quand on va chercher les asperges de Marc Desouartes à Guivelde, qui est juste à la frontière belge, il n'y a rien d'autre que de l'asperge chez Marc Desouartes.
Oui, c'est ça.
Notre problème dans notre association, c'est que pour l'instant, chaque producteur vend ses produits à sa ferme. Mm-hmm. Alors évidemment, Christelle ou Stéphane, si vous voulez faire vos courses, vous allez
la route.
Voilà, donc on est en train de travailler sur le magasin de circuit court.
Oui.
Il sera certainement on est dans le Dunkerquois, hein.
Oui.
Donc il sera implanté à la bonne zone de chalandise. Mais on va toujours garder un contact, on va toujours recevoir des clients dans nos petits magasins de ferme. Moi je suis producteur de lin, Je vends des chemises. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec la tomate, mais c'est quand même du circuit court parce que la chemise, elle est produite avec les lins des Flandres.
Ah oui.
Donc, bon, ben voilà, nous, on a besoin d'avoir nos cultures près de notre magasin pour attester que ce qu'on fait, c'est sérieux.
Oui, donc en fait, ce que vous nous dites le, par rapport au bio local, c'est, pour vous, l'essentiel, c'est que ce soit local, bio ou pas bio. À partir du moment où on se connaît, on sait à peu près comment les uns et les autres travaillent et il y a une relation de confiance qui s'instaure.
C'est promis, Arnaud, si on passe dans le secteur, on viendra vous voir dans le Dunkerquois.
Merci,
ah bah, Stéphane,
Arnaud.
Vous êtes les bienvenus, merci.
Ah, très bientôt, merci à votre coup de fil et d'avoir partagé tout cela avec nous. On va écouter Hervé et Gérard, ils ont des choses à nous dire sur le bio local. 3210, vos appels, il est 13h37, à tout de suite.
RTL midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Rebière,
Stéphane Carpentier.
Alors, faut-il un label spécifique pour le bio produit en France? Question qu'on vous posait aujourd'hui. Il y a 80% de oui sur notre site RTL.fr et des avis aussi, Laurent, sur notre page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole.
Mais encore un, panique Francis. Il y a tellement de bio ou soi-disant bio que je me pose la question, ces produits le sont-ils vraiment? Je propose un seul label, celui du réellement certifié bio. Encore une mode pour nous vendre plus cher des produits des Plormat Lorraine. Le bio, c'est une bonne blague pour Micheline quand certains agriculteurs voisins arrosent grassement leurs champs. Toute la cochonnerie vole et arrive sur les autres terres. Pas de frontières pour les pesticides. Sandrine préfère, elle, au quotidien, acheter local plutôt que du bio étranger qui n'a aucun sens. Anne demande à ce que ce label soit bien défini pour les petits producteurs bio locaux qui font des produits de saison, voire de la tomate bio en hiver. J'ai mes quelques doutes. Eh bien, pour éviter d'en avoir, le plus simple pour Fabien est d'aller se fournir directement chez le producteur.
Je voudrais qu'on écoute, merci Laurent, Gérard qui est en ligne avec nous du Tarn-et-Garonne. Bonjour Gérard, soyez le bienvenu.
Oui, bonjour Christelle et Stéphane.
Bonjour.
L'ordre est à respecter, l'ordre féminin, masculin d'abord.
Ah,
bravo,
très bien.
Gérard, c'est bien de commencer
c'est
comme ça.
C'est un bon début, en plus vous avez un accent délicieux, on vous écoute.
Ah bon, ben, l'accent là, de la région, on connaît, hein. Il n'y a pas à avoir honte là-dessus, quelles que soient les régions de France. Bon, mais bon, en même temps, bonjour aux auditeurs. Oui, effectivement, comme je disais tout à l'heure, le fameux mot bio, c'est vraiment la mode actuellement. Tout est bio. Tout est bio, c'est la folie, ça. Maintenant, qu'est-ce que c'est qui est vraiment bio? À part ce qu'on fait venir dans son jardin, qu'il n'y a que l'air qui peut le polluer, entre parenthèses. Sinon, après, il y a les commerces de proximité, vraiment, où aller chez l'agriculteur, le producteur lui-même, c'est pas ce qui manque, façon de parler. Ça va être peut-être un petit peu plus cher, mais après tout, on sait très bien qu'il y a moins de produits pour la même surface quand ce n'est pas engraissé chimiquement. Quand c'est engraissé naturellement, comme on le faisait il y a 40 ou 50 ans, je sais bien, il ne faut pas parler de ça parce qu'on est des vieux ringards. Mais en définitive, à quoi on revient? À quoi on revient par cette histoire du bio, par l'intermédiaire de la culture raisonnée et tout ça? Le mot raisonné, c'est pareil, c'est vraiment la fleur de l'âge actuellement. Culture raisonnée, on n'entend que ça. Mais parlons simplement. Allons voir l'agriculteur d'à côté, on voit le maraîcher d'à côté, essayer de faire un deal avec lui, on sait d'où ça vient, et on voit comment il cultive.
Vous nous dites au fond la même chose que l'auditeur qu'on avait juste à l'instant, qui nous disait
«
Vive le local, d'abord ». En fait, au fond, ce qui compte, et vous êtes tous à peu près d'accord là-dessus, c'est tout ce qu'on fabrique localement, que ce soit en bio ou pas en bio, parce qu'il y a des maraîchers qui ne travaillent pas en bio, mais qui travaillent très très bien. Et au moins, vous savez d'où ça vient.
Ah oui, tout à fait. Là, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Alors que le mot bio, au jour d'aujourd'hui, on le met à toutes les sauces. Attendez, les tomates bio en plein hiver, le raisin bio, n'importe quand.
Mais je suis d'accord, moi aussi, ça me hérisse le poil. C'est pareil. Je comprends pas ça. Moi, je fais comme vous, le raisin en plein hiver qui arrive d'Argentine ou de je ne sais où, comprends pas.
Il a beau être bio, peut-être bio de la culture de là-bas, bien que c'est...
Oui, et c'est pas forcément les mêmes normes en plus.
Plus il a voyagé.
C'est une histoire de l'homme. En plus, on sait très bien que l'histoire de la viande, quand ça arrive de très loin de là-bas, quel que soit dans le côté soleil levant ou côté soleil couchant, je ne dis pas les termes, les normes ne sont pas du tout pareilles. On nous vend ça de la merde, en définitive, excusez-moi du mot.
Gérard...
Et puis, en plus, c'est pas donné. Ce n'est pas donné.
Gérard, restez là, s'il vous plaît. On va changer de région et aller dans le Bas-Rhin, à Strasbourg. C'est Hervé qui est en ligne au 3210. Bonjour Hervé.
Oui, bonjour à vous, merci de m'accueillir.
Avec plaisir.
Voilà, alors, une précision, j'ai travaillé dans une usine en Alsace qui fabrique des produits phytosanitaires, c'est plusieurs centaines de tonnes qui sortent chaque année de cette usine, et la production m'abaisse pas depuis des années. Donc ça, moi je me pose des questions. Ils expédient par camion entier dans toute la France, et en Europe ils vont même très très loin, puisqu'ils vont jusqu'en Biélorussie, des produits phytosanitaires. C'est tous des produits que vous retrouvez dans les champs, dans les vignes et sur les arbres, et qui sont répandus pour faire pousser les légumes, les raisins, etc. Donc moi ça m'amuse un petit peu, et ça corrobore un petit peu ce que j'entends depuis tout à l'heure, les gens qui nous parlent du soi-disant bio, vous savez combien il y a de contrôles par an à peu près dans une exploitation qui fait du bio?
Dites-nous,
à peu près.
Dites-nous.
Un contrôle par an. Il y en avait deux avant janvier 2018. Là, c'est passé depuis janvier 2018 à un contrôle par an. Donc moi, je suis un petit peu dubitatif par rapport à tout ça. Ça m'énerve. Bon, j'achète pas forcément que du bio, parce que je sais que de toute façon, 5 fruits et légumes par jour, bah, il y aura des pesticides, il y aura des herbicides dessus.
Oui, il y en aura forcément quelque part, oui.
Et puis que... Alors, j'étais dans un magasin bio en Alsace il n'y a pas tellement longtemps. Je fais le tour, j'avais des choses à acheter. Je fais le tour du magasin et je regarde donc la viande, le fromage, le poisson, etc. Puis je vais voir la dame. Bon, ça m'a amusé quand même un petit peu. Et je vais voir la dame, je lui dis « Madame, c'est normal que dans un magasin bio, vous ayez tous ces produits-là emballés dans du polypropylène. » Elle me dit « Mais c'est quoi, monsieur, le poly... Bah, c'est du pétrole. C'est du pétrole, madame. » Donc c'est complètement antinomique. Ouais. On ne peut pas faire du bio. Moi ça m'énerve. Je parlerai bio quand on aura zéro emballage. L'emballage ça coûte à peu près 25% du produit que vous achetez. Donc quand vous achetez un produit, des pâtes, de chewing-gum, n'importe quoi, vous dépensez 25% uniquement pour l'emballage. Quoi.
Non, mais vous avez raison.
On est obligé d'arrêter, Hervé. On vous salue. Merci du coup de fil depuis Strasbourg, en tous les cas pour l'instant. Et pour vous, ce label, il n'y a vraiment aucune valeur et ça vous fait bien rire, concrètement, avec votre illustration. Merci d'avoir pris la parole sur ce sujet-là. On aura l'occasion de redébattre du bio, parce que ça revient régulièrement sous les projecteurs de l'actualité. 32-10 tous les jours, vos appels. Dans un instant...
Laurent Gérard.